Our number one job is fandom.
You guys ready to get this party started?
It's all about bringing fans into the stories they love. Now we're going to get to do it every day at Netflix House in person.
Et c'était hier à Dallas, l'ouverture de la deuxième House of Netflix, une sorte de parc d'attractions à la sauce Netflix qui devient de plus en plus le nouveau Disney, finalement, Netflix, sur le toit du monde. On va en parler justement avec un producteur qui les connaît bien. Bonjour Pascal Breton.
Bonjour.
Donc on peut applaudir, bonjour.
Oui.
Bienvenue. C'est une phrase qu'on ne dit pas tout le temps. Bienvenue à Poitiers. Vous êtes producteur, président fondateur de Federation Studios. Vous avez notamment travaillé sur la production des séries d'animation Babar et les aventures de Tintin. Donc, sincèrement, les plus belles années de mon enfance. On vous doit aussi la série pour enfants, Les Intrépides, avec Laurent Deutsch, la saga de l'été de TF1 Dolmen. Et l'énorme succès de Sous le Soleil, mais l'une des séries françaises les plus distribuées dans le monde. Vous avez aussi coproduit Le Bureau des Légendes sur Canal+, et En Thérapie sur Arte. Ah ben, on peut y aller, hein. On peut y aller. Ah mais... On va ne faire qu'applaudir. Mais si on vous invite aujourd'hui, c'est parce que vous êtes celui qui a produit la première série française pour Netflix, Marseille, en 2016. Comment vous avez démarché Netflix? Est-ce que ce sont eux qui sont venus vous chercher, ou vous avez senti le potentiel d'une plateforme?
Non, j'ai tout de suite senti que Netflix allait faire un gros break, et j'ai été aux États-Unis, et ce qui est la belle histoire, c'est que à l'époque, ils avaient un bureau qui était beaucoup plus petit que cette salle, quoi. C'était vraiment 4 pièces, et j'allais les voir plutôt avec des projets américains. Ils m'ont dit, écoute, on n'a pas trop besoin de projets américains. Ils étaient en train de faire House of Cards. Je leur ai dit, et ils m'ont dit, mais par contre, si t'as un projet français, ça nous intéresse. Donc je l'ai un peu inventé sur pièce, directement. J'aurais inventé un petit Marseille, le maire de Marseille. Je me suis dit que c'est un peu notre House of Cards à nous, c'est-à-dire nos intrigues politico, on va dire plus que politico, quoi, un peu mafieux.
Et vous êtes le président fondateur de Federation Studios. J'ai fourché et je n'aime pas ça. Pascal Breton, merci d'être là à Poitiers avec nous. On peut l'applaudir, bien sûr.
Merci.
Alors, est-ce que Zoom Zoom Zen peut devenir la prochaine grosse production de Netflix? Imaginez. Mathieu règne sans merci sur la bande FM depuis des années, quasi 2 décennies. Lui qui avait commencé en tant que stagiaire au Fou du Roi, avec ses bouclettes brunes qui partaient dans tous les sens, et qui peine désormais à brosser cette toupette grise qu'il rabat sur le côté droit. Ou gauche, ça dépend de l'humeur. Les années passent, mais dans l'ombre, son rédacteur en chef, fidèle allié, avec qui ils ont tant ri, a sauté sur la première occasion la semaine dernière. Alors que Mathieu, suite à sa glissade en scooter, était encore dans le camion des pompiers, Cyril, lui, était au 5e étage de la maison de la radio, a concocté son jingle.
Cyril la carrière.
Oui, cette fois-ci, c'est son tour. Rien ni personne ne pourra l'arrêter. Zoom Zoom Zen, saison 4, épisode 647. C'est parti. Allez, bonjour à toutes et à tous, bienvenue si vous nous rejoignez, merci de faire de Zoom Zoom Zen votre petit plaisir de la journée, votre moment à vous. C'est 2 heures chaque après-midi pour décrypter l'actu sans oublier d'en rire, et aujourd'hui, émission exceptionnelle depuis le TAP de Poitiers. Et ouais, chaud bouillant à Poitiers.
En délire.
Et c'est dans le cadre du France Inter Tour, pour qui on se prend. Zoom Zoom fait escale dans la Vienne, Poitiers, les amis, Poitiers, ville de toutes les contradictions, capable de passer du Futuroscope au Chabichou, ce célèbre petit fromage de chèvre en forme de tronc que j'ai goûté ce matin et dont visiblement l'odeur s'accroche aux molaires malgré les heures qui passent. Elle est pas mal, cette idée de France Inter Tour, parce qu'au fond, si on y réfléchit 2 minutes, l'exercice d'une émission de radio, d'une chronique radio, est quelque chose de somme toute assez solitaire. Vous écrivez seul, face à un écran, vous essayez de choisir les bons mots, le bon ton, la bonne petite vanne, le truc qui fait qu'on fait de la radio. Et puis vous imprimez votre texte tout seul, face à l'imprimante, vous arrivez dans un studio rouge tamisé avec des collègues, une belle bande. Ça fuse, ça rit, ça se détend avant que la lumière rouge ne s'allume, lumière rouge, le signal qu'on parle et qu'on ne parle pas tout seul, mais qu'on parle ensemble. Parce qu'au final, dans ce studio à la maison de la radio, sans cette lumière rouge, on reste une bande de potes qu'on a mis autour d'une table et qui racontent des bêtises sur leur péripétie depuis 4 ans maintenant. Et c'est compliqué de parfois s'imaginer qu'il y a des gens derrière une appli, derrière un podcast, derrière un transistor pour les plus anciens. On parle parfois de chiffres, du nombre d'auditeurs qui se transforment en auditeurs cumulés. Et pour être honnête, tout ça, bah c'est quand même assez flou et pas tangible. Alors le fait que vous soyez là, cumulé dans cette salle cette fois-ci, qu'on soit en face à face dans ce magnifique théâtre de Poitiers, eh bien ça veut dire que vous existez vraiment. Et je vous jure que ça compte. En vrai, on fait les malins depuis ce matin, mais on est comme des fous d'être là. Enchanté Poitiers, c'est France Inter. Zoom zoom zen pour vous servir.
Manon Margani, dans ton mini, Cyril Laderrière, France Inter Tour à Poitiers, zoom zoom zen.
Avant de parler de Netflix avec vous, Pascal Breton, je vous présente cette bande avec qui nous avons décidé de partager cette vie professionnelle.
Décidé.
Pour Manon, oui, on nous l'a imposé. Pour Manon, être à Poitiers, c'est un peu comme si elle s'était trompée de train. On avait tous peur. Souvenons-nous de ce qui s'était passé à Angers.
Mon Dieu, avec le gros Bershka, là. Oh là là, sur la place du village.
Eh, hey, mais là, c'est différent. Hey, là, c'est différent. Elle est plutôt à l'aise. Ouais. Elle m'a même envoyé discrètement un petit vocal depuis les toilettes du TAP, le théâtre de Poitiers.
Est-ce que toi aussi, t'as l'impression que par moment, des gens te reconnaissent.
C'est pour ça que je vous envoie plus de vocales.
Bah oui, mais voilà. Manon, Poitiers vous aime, Poitiers vous a reconnu, ouais, et Poitiers ouais, vous applaudit, sûr, évidemment.
Merci. Merci Poitiers. Et aujourd'hui, dans ma veille sanitaire, je vais vous parler d'amour. Et si l'intelligence artificielle nous aidait à trouver l'être aimé? C'est le pari que font plusieurs applications de dating pour garder leurs utilisateurs qui les désertent de plus en plus à cause de cette fameuse dating fatigue dont on a déjà parlé. Mais l'IA pourrait les sauver, je vous en parle dans ma veille sanitaire.
Juste à côté, ne vous fiez pas à son apparence. Sous ces airs de quinca parisien bobo que vous retrouvez certains week-ends sur le marché de Poitiers, il faut quand même reconnaître une chose, il est déjà beaucoup plus jeune dans sa tête que dans le reste de son corps. Et c'est un amoureux des découvertes, de la vie, un curieux de tout. Par exemple, si vous lui faites un farci poids de vin, à base de choux, de poire ou de viande, de gras de porc, là, vous allez lui parler à Cyril. Là, c'est oui. Cyril, chaque jour, vous nous donnez les trois infos dont on pourra débattre autour de la table, en mangeant et en rentrant à la maison ce soir. Aujourd'hui, votre programme.
Eh bien, pourquoi les Français ne font plus d'enfants? Pourquoi un ancien vainqueur de l'Eurovision a décidé de rendre son trophée et pourquoi France Télé va devoir signer un gros chèque?
De mon côté, j'allais pas repartir de Poitiers sans lire la presse régionale. Je me suis arrêté sur un portrait, celui d'un prêtre au grand cœur, un curé pas comme les autres, qui sillonne les routes de la Vienne en camion. Mais avant tout ça, le producteur Pascal Breton est avec nous en public et en direct du TAP, scène nationale du Grand Poitiers. Pascal, on le disait. Vous avez été le premier producteur français à proposer une série pour Netflix, Marseille. Cette semaine, Netflix a annoncé son intention de racheter Warner Bros. On va y revenir. Netflix a en tout cas inauguré hier son deuxième parc d'attractions à Dallas, après celui ouvert dans la banlieue de Philadelphie le mois dernier. Netflix est désormais l'acteur incontournable de l'entertainment.
Ah oui, clairement, ils ont pris le dessus. Principalement par la technologie, c'est ça qui est très impressionnant. Bien sûr, ils ont du contenu qui parfois est très fort, mais pas plus que HBO, pas plus que Disney. Ce qui a fait la différence, c'est la technologie, c'est leur capacité à aller chercher le public partout et à, je dirais, à vendre directement, à marketer, comme on dit, leur programme de telle façon que, je vous donne un exemple. J'ai fait un film qui s'appelle KO, qui est un film qui se passe à Marseille aussi, qui est une histoire de champion de MMA qui trouve sa rédemption. Eh bien, j'ai eu 60 millions de vues de ce film, donc bien plus que la France. Hein. J'ai eu dans le monde entier. Et pourquoi je les ai eus? Parce que l'algorithme de Netflix va chercher partout dans le monde ceux qui vont aimer ce genre de film.
Quentin nous en parlait, dans cette Netflix House qui a ouvert, on va retrouver des espaces dédiés à One Piece ou à Mercredi, la fameuse série de Tim Burton. Est-ce que c'est un moyen aussi de faire vivre les franchises comme Disney, le fait avec ces parcs d'attractions, les faire vivre au-delà de l'écran, en fait.
Bien sûr, et la perspective d'acheter Warner, c'est complètement ça. Warner, c'est des centaines de marques extraordinaires. On connaît très bien Harry Potter, mais Friends, tous les DC Comics. Donc, si vous voulez, il y a un potentiel là de créer aussi des parcs d'attractions, des droits dérivés, et de faire revivre toutes ces marques, de les décliner, sans parler bien sûr de l'intelligence artificielle qui va permettre de réduire énormément les coûts et donc de décliner, je dirais, des centaines de suites à toutes ces grandes marques.
Et ça veut dire qu'en fait, on a beau être dans l'ère du numérique, on a encore toujours besoin d'espèces de contacts physiques, de faire se rencontrer des univers et des vrais gens.
De plus en plus, c'est ce que vous faites aujourd'hui à Poitiers.
Absolument.
De plus en plus, puisque plus il y aura de virtuel, d'artificiel et de contenu numérique, et on en aura beaucoup plus, évidemment. On sait déjà qu'en musique, on a un tiers de la musique qui maintenant est malheureusement artificielle. Et donc, c'est des millions de titres. Ça va être pareil pour les contenus audiovisuels sur YouTube et ailleurs. Et donc, on aura de ce fait, heureusement, une sorte de soif absolue d'exposition de peinture abstraite du XXe siècle ou de spectacle.
On continue d'analyser l'empire Netflix cet après-midi en direct à Poitiers. Dans quelques instants, Cyril nous parlera des raisons qui poussent les Français à faire moins d'enfants dans son iconique La Car News. Restez branchés. Mais juste avant, on écoute une chanson qui a cartonné 37 ans après sa sortie grâce à la série Stranger Things, Running Up That Hill de Kate Bush.
Zoom Zoom Zen, France Inter Tour à Poitiers, Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière.
Zoom Zoom Zen est toujours en direct de Poitiers. Dans un instant, Cyril nous parlera d'un ancien vainqueur de l'Eurovision qui rend son trophée. Et Quentin nous dressera le portrait d'un prêtre assez particulier. Il se balade avec son food truck à Poitiers et ses alentours. Vous l'avez peut-être déjà croisé ici. Mais avant ça, le producteur Pascal Breton est toujours avec nous. Pascal, on le disait, vous avez produit la première série française pour Netflix, Marseille, en 2016. Est-ce qu'il y avait des exigences différentes par rapport aux chaînes de télévision dites traditionnelles?
À l'époque, c'était l'ère des pionniers, donc c'était extrêmement agréable. Il y avait un côté... Faites exactement comme vous le sentez.
La liberté.
Oui. Après, évidemment, ça c'est un peu plus resserré, mais je dirais quand même que d'une façon générale, surtout sur un pays comme la France où on n'a pas de, je dirais, d'hyper obsession du politiquement correct ou de toute autre idéologie, il y a pas trop de problèmes de.
Ils vous ont rien imposé?
Ah non, sur Marseille, vraiment rien du tout. Non.
Par contre, ils mettent certainement plus de moyens sur la table.
Ouais,
plus d'argent.
Ouais, beaucoup plus d'argent. Et ça a toujours été leur politique. Bon, après, Canal était déjà monté assez haut. Eux, ils ont monté d'un cran. Et c'est pas mal. Ça fait de l'émulation. Ouais. Et clairement, ça a relancé ce qui fait qu'aujourd'hui, en fiction française, on a beaucoup de séries populaires que vous aimez tous. Mais on a aussi 10 ou 15 séries de très, très grande qualité qui sortent chaque année. Et ça, c'était pas le cas il y a quelques années, objectivement. Et c'est grâce à toute cette concurrence, plateforme, Canal, et même France Télé ou TF1 s'y sont mis.
Ouais. Les acteurs de cinéma ont longtemps regardé la télé de loin, un peu avec mépris, pas envie d'en faire. On sent qu'ils ont été moins frileux avec les plateformes.
Ah, complètement. À la fois parce qu'il y avait plus d'argent, parce qu'il y avait quand même un petit déclin du cinéma, mais aussi parce que tout à coup, il y avait je veux ma série. Et tous les grands acteurs veulent leur série. Et beaucoup de grands réalisateurs veulent leur série. Quand on a fait les derniers épisodes du Bureau des légendes, vous vous souvenez qu'on a donné une carte blanche à Jacques Audiard. Non, ouais. Certains ont crié au scandale, mais c'était quand même un très beau Jacques Audiard et c'était une pure carte blanche, quoi.
Qu'est-ce que Netflix a changé dans votre métier de producteur?
Bah, ça nous a ouvert, surtout dans les premières années, tout le champ des possibles. En France, on faisait meurtre à Poitiers.
Sous le soleil, quand même, attendez.
Sous le soleil,
c'est culte.
C'était déjà, mais sous le soleil, c'était déjà un peu quelque chose qu'on n'avait pas vu. Mais on n'allait pas faire des films d'action, on n'allait pas faire des films de genre ou des séries.
Sans Netflix, il n'y aurait pas eu Bureau des légendes, par exemple.
Si on s'est sorti à peu près en même temps, et là, c'était vraiment Canal+ qui avait l'ambition justement d'aller plus loin, de faire des séries aussi un peu plus action. Enfin, Bureau des légendes n'est pas une série d'action, c'est une série très psychologique. Mais là, il y a eu juste la rencontre extraordinaire entre Éric Rochant et Canal+, et ça a fait. Mais je pense que maintenant, on est capable d'avoir des ambitions sur des très grandes séries, même politiques, même bien sûr d'espionnage, bien sûr militaire, toutes choses qu'on n'aurait jamais osé faire avant.
Vous en avez parlé tout à l'heure, vous avez parlé de l'algorithme de Netflix. Je me souviens quand Netflix s'est lancé, on parlait souvent de ça avec un peu cette crainte de dépendre d'un algorithme. Aujourd'hui, finalement, on est un peu dépendant, on est accro.
Ouais, on est accro, mais je dirais que tant qu'on est accro à des séries ou des films, ça va encore. C'est plus effrayant pour nos enfants, bien sûr, pour le TikTok, pour ce très très court. Le problème de la fiction, par exemple, c'est que en Asie et maintenant aux États-Unis, les fictions qui font fureur sont des fictions d'une minute. Une minute à suivre. Et vous payez quelques centimes par épisode, tous les jours. Et vous devenez complètement accro tous les jours à votre fiction quotidienne qui peut être extrêmement simple, hein, une histoire d'amour ou juste une bagarre entre plusieurs personnages. Et ça, c'est un peu ce qui nous menace. Donc c'est là où il faut, comme partout, se cultiver, ouais. S'ouvrir, exiger.
Finalement, peut-être que Pierre Courade aura 5 minutes sur Netflix. Vous écoutez France Inter en direct de Poitiers, il est 17h27. Et pour vous Poitiers, à Lacarnews, exceptionnel, jingle exceptionnel.
Cyril Lacarrière. Cyril Lacarrière.
Ah,
c'est
juste.
Il est L. Il est A. Il est C. Il est A.
Ah.
Il est Lacarnews.
Allez Cyril, c'est en chanson, les trois infos qu'il ne fallait pas manquer en ce vendredi 12 décembre. Et on commence par les enseignements du jour.
30 000 personnes ont répondu à la consultation de la mission parlementaire sur les causes de la dénatalité. Car oui, on commence à le savoir, on fait moins d'enfants en France et ça devient inquiétant. Donc paf, mission parlementaire. Ce qu'on apprend dans cette consultation, déjà une surprise. Plus d'un répondant sur deux dit rêver d'une famille avec 3, 4 enfants, voire plus. Pour vous donner une idée, on est aujourd'hui à 1,62 enfants par femme, très très loin donc des familles nombreuses. Pour autant, il n'y a que 5% qui se revendiquent comme des no kids. Vous savez, c'est le nom qu'on donne aux gens qui ne veulent pas d'enfants du tout. Alors pourquoi on fait moins d'enfants? Le coût financier pour à peu près 30% des sondés, l'inquiétude de l'avenir pour environ 20% et le risque du déclassement au boulot. Et évidemment, ça concerne beaucoup plus les femmes que les hommes. Quant à savoir comment relancer la natalité, les gens ont leurs petites idées. Par exemple, allonger les congés parentaux, mieux les répartir et créer plus de places en crèche. Alors cette consultation n'est pas un sondage représentatif de la population française, mais c'est quand même un bon indicateur. C'est pas que les Français aient moins envie d'enfants, c'est qu'ils flippent par trop de choses et c'est difficile de ne pas entendre cette inquiétude.
La protestation du jour.
Il y a 2 ans, il chantait ça. Nemo, le Suisse, pas le poisson, il a gagné l'Eurovision et il vient de rendre son trophée. Il proteste contre la participation d'Israël au concours de chant à cause des ravages faits par le gouvernement de Benjamin Netanyahou à Gaza, évidemment. La semaine dernière, les principales chaînes de télé ont voté en faveur de la participation d'Israël au prochain concours qui se déroulera à Vienne. Depuis, l'Espagne, l'Irlande, l'Islande, les Pays-Bas et la Slovénie ont annoncé qu'ils ne participeraient pas à l'Eurovision 2026.
La grosse amende du jour.
Rupture brutale et vexatoire, discrimination lié à l'âge, exécution déloyale du contrat, les prud'hommes de Paris ont tapé sur les doigts de France Télé. Leur faute. Vous connaissez dans la salle? dis pas ça, ça vous date. Avoir viré Bertrand Renard et Ariel Boulin-Pratt, les deux présentateurs de l'émission des chiffres et des lettres, sont nos confrères du Parisien qui le révèlent. Les deux étaient à l'antenne depuis respectivement 47 et 36 ans. L'émission avait d'abord basculé le week-end avant d'être purement et simplement supprimée l'an dernier, après 59 ans, une des plus anciennes émissions de l'histoire de la télé.
Merci beaucoup Cyril. Pascal Breton, sauf erreur de ma part, vous n'avez jamais produit d'émission de télé. Est-ce que ça vous tenterait ? J'ai l'impression que c'est quand même un secteur très foisonnant. Même les youtubeurs aujourd'hui pompent un peu les concepts des émissions.
Bah, je me sentais pas de compétences particulières, donc non, j'en ai pas fait. J'aimais la fiction, j'aimais la matière de la fiction.
Ouais, ok. Et maintenant, dans Sa France à lui, direction, ici, forcément, Poitiers et sa région.
Et quelle joie de tomber sur cet hebdomadaire gratuit qu'on lit en prenant son petit café rue du Bon Marché dans le centre de Poitiers. C'est bien, il y a des habitués, je crois, dans le public. C'est bien, j'ai dit le nom d'une rue, je pensais que vous alliez réunir.
Oh,
pas
oui.
du tout, pas du tout. J'ai lu pour vous le 7 Info. Il y en a qui connaissent ? Le premier hebdo gratuit de l'info de proximité dans la Vienne. Et c'est donc en feuilletant ces pages que je suis tombé sur le père Mathieu Lemerère. Vous le connaissez ? Déjà, nous avons là un curé plutôt jeune, dynamique, il a la quarantaine. Il a été footballeur, ancien capitaine de l'Espérance sportive de Saint-Benoît, au sud de Poitiers. Il a les faveurs de la presse car, une fois la messe dite du dimanche, il part vendre des crêpes dans un camion orange qui sillonne les routes de la Vienne. Ça lui a valu le joli surnom de frère Truck. En hommage au moine alcoolique. Foot Truck, frère Truck, vous l'avez ? Hilarant.
Évidemment.
Faites pas cette tête, on a la presse qu'on mérite aussi. Bon, frère Truck, moi j'aime bien son mood, j'aime bien son engagement et j'aime bien ce qu'il dit. Comme beaucoup, il dit, je le cite, comme beaucoup, je constate l'augmentation de la pauvreté dans ma paroisse, je prêche, je parle beaucoup, mais il me semble nécessaire d'être aussi dans l'action. Et dans son camion, frère Truck propose des crêpes nature ou garnies et il s'est inspiré du principe du café suspendu. Le café suspendu, c'est en fait, on paye un café ou plusieurs d'avance dans un bar et celui qui arrive derrière et qui a pas les sous vient le prendre gratuitement. C'est pareil là avec les crêpes. Et c'est bien les crêpes parce que ça permet de causer, de parler tout, de rien. Et surtout, ça permet de faire un geste pour ceux qui en ont plus le besoin.
Et pourquoi c'est ce portrait qui a retenu votre attention aujourd'hui, Quentin ?
Parce que c'est ce genre d'histoire que j'aime lire dans la presse régionale. Les histoires de ceux qui s'investissent. On termine le taf, donc là, lui, la messe, et on enchaîne. On donne ce qu'on a de plus précieux, du temps. Le père Mathieu est pile dans cette énergie-là. Il met la solidarité sur la route avec son tablier orange. Une manière simple de créer du lien alors que la précarité, elle grimpe. Même ici, avec ces crêpes, ceux qui ont les moyens payent pour ceux qui ne les ont plus. Un petit rappel que dans nos régions et ici à Poitiers, la fraternité n'est pas un concept, c'est un réflexe.
Merci Quentin et bravo à frère Truck.
Hey, frère Truck.
On continue de parler de Netflix, devenu le nouveau géant d'Hollywood, des séries aux films en passant par les parcs d'attractions et les produits dérivés, rien ne leur échappe. Le producteur Pascal Breton est avec nous ici à Poitiers, mais avant un autre géant de l'humour, celui-ci. Bonjour Ahmed Sparrow.
Bonjour tout le monde.
Ahmed, de quoi vous allez nous parler ?
Je vais vous parler de l'amour que j'ai pour la ville de Poitiers, bien évidemment.
C'est vrai ?
Non, mais non, il ment.
Oh, c'est pas vrai. Ahmed Sparrow, c'est juste après l'Erita Mitsuko qu'on écoute sur France Inter. Bah, le titre, ça correspond pas du tout à ce qu'on a en ce moment. Il y a de la haine. Et à Poitiers, il y a que de l'amour.
faire pardonner, ni même si on a droit à quelque excuse que ce soit pour le saccager honté de la matière vivante sur cette planète. On ne sait plus où se mettre, nous autres de la France. Une fois de plus, on fait ce qui nous arrange. Il fallait qu'on vous le dise, c'est dit, c'est fait. Si nous passions maintenant à toute autre chose, soyons plus positifs. Rien ne sert d'être trop triste. Au contraire, bien au contraire.
France Inter Tour à Poitiers. Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière.
Et Zoom Zoom Zen en direct de Poitiers ce vendredi, c'est le France Inter Tour. Et c'est tout simplement le feu. Mais c'est le feu.
Alors, Quentin, je vois un monsieur qui s'endort au premier rang là. Non, ça... il a sa main, sa tête posée sur sa main.
Ah oui, c'est vrai.
Monsieur. Ah non, il dort pas, ça il sourit, j'ai eu peur.
Ah oui. ça va pas du tout à ce que j'allais dire. On ne les maîtrise plus. On n'avait pas cassé autant de fauteuils dans une salle depuis Johnny. Bon. C'est autre chose. Le tap, ça va toujours? Jusqu'à 18h, on parle de l'Empire Netflix avec Pascal Breton. Manon Mariani nous parlera de l'intelligence artificielle qui s'invite dans les applis de rencontres et qui va nous aider peut-être à trouver l'amour. Mais pour l'heure, Poitiers, vous pouvez vous asseoir dans vos fauteuils, pour ceux qui en ont encore un vu que vous les avez tous cassés, pour accueillir l'humoriste le plus musclé de la bande. Après avoir déclaré son amour pour la ville de Poitiers à plusieurs reprises dans sa chronique, qui d'autre que lui pour venir le faire en direct devant les Poitevins et les Poitevines? Mais le connaissant bien, il a quelques reproches à vous faire. Poitiers, voici Ahmed Sparrow.
Yes, yes. Aujourd'hui, on est à Poitiers. Oui, Poitiers, la ville dont tout le monde a entendu parler, mais que personne n'a jamais vue. Ouais. C'est un peu le Dupont de Ligonnès des villes. Hein. Très connu, mais introuvable. Mais c'est beau, Poitiers, vraiment. Et vous avez une histoire. Historiquement, Poitiers, c'est la ville des batailles. C'est vrai. Hein. La plus connue, 732. Charles Martel contre... Fantomas, il a dit. N'importe quoi, non. Contre Mésoncle. D'ailleurs, au cas où il y aurait des partisans de Charles Martel, sachez que je ne vais pas rester. Voilà. Je finis ma chronique et je rentre sur Paris. Voilà. Alors quand Cyril, le rédacteur en chef, m'a dit « Ahmed, tu veux venir avec nous à Poitiers ?» Je me suis dit « Oula, ça sent le traquenard. » Non, je vois très bien comment ça peut se finir cette histoire. Tu sais, ça va commencer par « Ahmed, ça te dit une balade en forêt ?» Après, je vais recevoir des flèches, des gens qui vont dire « Chargé, non, laissez tomber. » Mais faut avouer, elle est chelou son invitation quand même. Parce que c'est comme si tu disais à un Allemand « Ça te dit un petit brunch à Verdun ?» Non, il sera pas chaud. Après, il m'a chauffé, il m'a dit « C'est super, tu verras, il y a le futuroscope. » Ouais, là, je me suis dit « Ah ouais, donc il veut vraiment que je meure, mais de manière pédagogique. » Non, parce que faut en parler du futuroscope. Hein. Et je pense que vous en avez marre quand vous en parle, mais moi, j'y suis allé 4 fois dans ma... Ouais, mais moi, j'y suis allé 4 fois dans ma vie au futuroscope. Et rien que le nom futuroscope, faut qu'on l'arrête. Hein. Les attractions, elles sont là depuis la Coupe du Monde 98. Non, ils auraient dû appeler ça le à l'ancienoscope ou « Vivement dimanche ». Non, c'est vrai, tu payes ta place 40 balles pour t'asseoir dans un fauteuil et regarder une vidéo sur l'eau potable. Mettez Arte, c'est gratuit, c'est plus facile. Non, c'est vrai. Non, mais c'est vrai, c'est la vérité. Les enfants, ils sortent traumatisés. Hein. D'ailleurs, j'ai vu une stat effrayante dans un magazine qui s'appelle Stat Magazine, qui dit qu'un enfant sur deux qui va au Futuroscope finit prof de SVT. C'est normal, ça? Mais Poitiers, c'est pas que la bagarre et Futuroscope, hein, c'est aussi la ville de l'éducation, université fondée en 1431. Aujourd'hui encore, c'est plein d'étudiants. Poitiers, c'est super. C'est un genre de Poudlard sans la magie, quoi, tu vois. Mais je vous le dis honnêtement, hein, Poitiers, c'est super. Et j'aime Poitiers. C'est largement mieux que Saint-Étienne. Parce que Saint-Étienne, c'est nul. C'est la ville la plus nulle de France. Oui, c'est gratuit, j'en ai rien à foutre. Et je vous préviens, hein, vous avez pas intérêt à faire une émission là-bas, hein, parce que je viens pas. Hein. Non, personne veut y aller. Hein. Même les Allemands, s'ils avaient dû passer par Saint-Étienne, c'est sûr, ils auraient dit « On s'est trompé, c'est pas la France, c'est la Roumanie. » Après, je me suis un peu intéressé à vos spécialités culinaires. Il y a le broyé du Poitou. Alors là, c'est génial. Un soi-disant gâteau que tu dois casser avec ton poing. Il y a rien qui va dans ce gâteau. Ni le nom, ni la façon de le manger. Et pourquoi pas la poudrée du Poitou pendant qu'on y est. Une soupe que tu dois sniffer par le nez. Vous avez aussi le chabichou du Poitou. Le chabichou du Poitou? Non, mais moi, j'abandonne. Je vous le dis, non, mais j'abandonne. Qui donne les noms chez vous? Le chabichou du Poitou. On dirait un sortilège dans Harry Potter. Chabichou du Poitou. Et pourquoi préciser que c'est du Poitou? Vous pensez qu'il y a d'autres chabichous? Non, vous croyez qu'il y a un chabichou d'Ibiza? Mais vous avez pété les plombs ici. Bref. Ça m'a donné faim, tout ça. Tenez, régalez-vous. Ah. Ouais, ah oui, oui, c'est pour tout le monde. Et c'est bon pour la santé, hein. C'est pas moi qui le dis, c'est Jimmy Mohamed. Vous voyez qui c'est, Jimmy Mohamed? Ouais, c'est un médecin, nutritionniste, bagagiste. Ouais. Ben ouais. Non, en ce moment, il y a sa femme qui l'a affiché parce qu'il bouffait des sneakers et des Kinder Bueno dans sa voiture. Ben ouais, le mec, toute l'année, il nous met en garde contre tout. Quand je dis tout, c'est tout. En garde contre le sucré, le salé, contre l'eau, contre l'air, bref, contre la vie. Et lui, tranquille de son côté, il bouffe tout. De toute façon, je le sentais pas. Le mec, il arrive toujours sur les plateaux télé avec des trucs entamés. Tu sais, il fait genre, c'est pour montrer l'intérieur du sneakers. Il avait déjà bouffé la moitié, le connard. Après, nous, on s'est sentis trahis. Il y en a, ils ont abusé. Ils ont demandé son renvoi de l'ordre des médecins. C'est abusé. Et puis, en vrai, pas besoin d'aller chercher loin. Il s'appelle Jimmy Mohamed. Son prénom n'est même pas d'accord avec son nom. Son prénom, il nous dit manger sainement. Mohamed, il nous dit manger des tagines. Ça n'a aucun sens. Alors franchement, Poitiers, c'est pas si mal. Entre Charles Martel, le Futuroscope, le Chabitou et le Broyé du Poitou, on sent qu'ici, tout finit en combat ou en indigestion. Mais au moins, vous avez une identité. À Paris, on a juste des vélib et des gastro. Merci Poitiers, je vous aime fort. Je me casse.
Merci Ahmed Sparrow. Vous êtes certain que vous n'attendez pas quelqu'un qui vous propose un brunch?
Non, c'est bon, non, je me casse avant qu'on me propose un brunch.
Le producteur Pascal Breton est toujours avec nous en direct du TAP, scène nationale du Grand Poitiers. On parle de Netflix, qu'on va certainement encore bien regarder en famille durant les vacances de Noël. Pascal, on l'évoquait tout à l'heure, Netflix qui souhaite racheter Warner. Ça, ce serait un Big Bang?
Ah ouais, c'est clairement, ça change la règle du jeu. D'autant plus que Warner, comme on le sait, possède HBO, qui a été historiquement l'inventeur de toutes les séries, je dirais, nouvelles, modernes, extraordinaires. Et donc, s'il y a les deux ensemble, plus bien sûr toutes les marques de Warner, plus là, ça fait vraiment quelque chose de totalement incontournable. Ça serait très fort pour eux, très dangereux, je pense, quand même pour la concurrence, pour la nécessaire compétition qu'on essaye d'avoir. Le grand risque de tous ces univers numériques, enfin, il y en a beaucoup de grands risques, mais il y en a un qui est évident, c'est quand il n'y a plus que des monopoles. Et il y a beaucoup de monopoles dans ces secteurs, que ce soit Microsoft, Amazon, Google, sont presque tous des monopolistes. Et dans notre univers, par chance, on a encore 5-6 joueurs. Il faut vraiment qu'il reste 3-4 gros joueurs qui puissent aller chercher à chaque fois des contenus différents, des publics différents, et qui nous permettent, je dirais, de créer avec beaucoup plus de capacité à dire « si tu le veux pas, je m'en fous, j'irai chez l'autre ».
Il peut y avoir des conséquences en France de ce rachat ?
Si c'est le cas, ça sera. Je pense qu'ils garderont un certain temps les deux réseaux. HBO n'est pas encore très développé.
On n'a pas HBO Max, par exemple, en France.
Voilà. Mais je pense qu'il y aura peu d'effets sur la France. Par contre, au niveau mondial, c'est évident. Et puis, ils seront beaucoup plus forts. Donc, toutes les marques de Warner vont se dérouler sur Netflix. Ils vont exploiter toutes ces marques davantage. Bon, il y aura plus de contenu. Ça sera bien. Hein, mais vous aurez beaucoup plus d'Harry Potter. Là, vous en aurez à foison. Ça sera peut-être un peu écrasant.
Netflix est toujours tenu à l'écart des considérations politiques. Est-ce que là, pour obtenir les autorisations des autorités de la concurrence, ils vont devoir faire allégeance à Donald Trump, et puis donc peut-être remettre en question aussi toute une politique de contenu autour de la diversité, parce que Netflix a été quand même reconnu pour ça, de mettre en avant, faire des contenus inclusifs.
Ah ben c'est clair que Netflix n'a pas la préférence de Trump. Trump est très proche de Paramount pour des raisons aussi très personnelles. C'est son gendre qui investit avec l'Arabie Saoudite dans l'autre projet concurrent. C'est pas gagné. Il y a une bataille de titans à plus de 100 milliards de dollars entre Netflix d'un côté, donc Paramount de l'autre, et c'est pas gagné, d'autant plus que Trump utilise vraiment l'État à son intérêt, hein, d'une façon assez proche de la Russie d'ailleurs. C'est assez comparable, c'est-à-dire les intérêts privés, les intérêts publics, c'est la même chose, et donc je pense qu'il fera tout pour manipuler l'autorité de la concurrence pour récupérer.
Pascal Breton, vous allez sortir une série sur Netflix l'année prochaine, ça s'appelle Bandit, c'est toujours d'actualité?
Ouais, totalement, elle est finie. C'est encore du Eric Rochant qui a fait le Bureau des légendes. Sauf que cette fois-ci, c'est pas de l'espionnage, c'est totalement nouveau. C'est un univers en Martinique avec une famille de 10 enfants qui sont livrés à eux-mêmes. Ils ont plus de parents. Alors, ils traficotent un peu, hein, quand même. Et le parrain de la famille a 14 ans.
Et est-ce que, comme pour le Bureau des légendes, vous avez déjà prévu plusieurs saisons?
On espère, Eric a déjà écrit la seconde.
Vous écoutez France Inter, il est 17h46. Manon, aujourd'hui, décidément, l'IA est partout et elle pourrait révolutionner notre vie amoureuse.
L'IA peut nous aider à inventer une nouvelle manière de trouver un partenaire bien plus personnel, bien plus efficace et bien plus performante. Ce sont les mots de Justin McLeod, le fondateur et patron de l'application de rencontre Inge, qui vient de quitter son poste après 13 ans. Il a publié un long texte pour expliquer ce choix sur un site qui s'appelle Overton. Mais plus qu'un simple site internet, Overton est en fait la nouvelle application de dating qu'il développe à l'aide de l'intelligence artificielle. Alors, pour le moment, on n'a pas énormément d'informations sur son fonctionnement, mais ce qui est sûr, c'est que pour que Justin McLeod ait quitté son poste aussi important, ça veut dire qu'il y croit vraiment. Pour lui, les applications de dating doivent se transformer, car si elles avaient le vent en poupe il y a une dizaine d'années, aujourd'hui, elles ont perdu de leur aura. Ça se ressent dans les chiffres, d'ailleurs. Selon une étude de l'Ofcom, le régulateur des communications du Royaume-Uni, les applications majeures de dating ont vu leur nombre d'utilisateurs chuter de 16% en 2024.
Et j'imagine que c'est la conséquence de la fameuse dating fatigue dont vous nous parlez souvent, Manon.
Exactement. Il y a un burn-out autour de ces applications. Entre le love bombing, le ghosting et tous les mots en ing, la recherche de l'amour devient épuisante, en particulier chez les femmes. Une enquête de l'IFOP montre même que plus de 2 femmes sur 3 ont déjà subi une forme de harcèlement sur une application de rencontre. Il faut donc trouver de nouvelles solutions. Et vu que l'intelligence artificielle envahit absolument tous les domaines en ce moment, pourquoi ne pas l'utiliser pour la recherche de l'amour? Les plus grosses applications s'y mettent déjà petit à petit. Inge a par exemple lancé Convo Starters, qui propose des messages générés par IA pour lancer une conversation. Bumble utilise l'IA pour analyser les photos de profil et conseiller les meilleurs. Et puis Tinder, qui reste l'application de dating numéro 1 dans le monde, est elle aussi en train de tester une nouvelle fonctionnalité basée sur l'intelligence artificielle. Elle s'appelle Chemistry. L'appli demande à l'utilisateur la permission d'accéder à l'entièreté de ses photos stockées sur son téléphone. Ensuite, l'IA les analyse pour en déduire ses centres d'intérêt et du coup ses traits de personnalité. Donc en gros, si on a des photos de nous en train de faire une randonnée, l'IA va conclure que c'est un hobby et nous proposer des profils qui aiment la randonnée. Pour le PDG de l'application, cette fonctionnalité sera le pilier de l'expérience Tinder en 2026.
Alors Manon, est-ce que vous y croyez ?
Honnêtement, oui. Je pense que le swipe s'est terminé et que l'IA va le remplacer. Je crois notamment aux nouvelles applications de dating qui repensent totalement leur modèle. C'est le cas de l'américaine Stitch, par exemple, lancée l'année dernière. Elle propose un matchmaking assisté par IA, comme une agence matrimoniale. L'utilisateur remplit un questionnaire détaillé, l'IA analyse sa personnalité et ses attentes et lui propose des profils. On peut indiquer, par exemple, nos red flags et les qualités indispensables que l'on cherche. Chaque suggestion est ensuite validée par un matchmaker humain, cette fois-ci. Et l'IA accompagne ensuite la conversation. Alors, je le sais, effectivement, ça fait peur de confier sa vie sentimentale à une IA, ça fait très Black Mirror, mais en même temps, ça peut aussi être bénéfique, réduire les swipes à l'infini pour parler à des personnes qui ont vraiment des choses en commun avec nous, l'idée est plutôt bonne, mais c'est aussi remettre une pièce dans la machine et nourrir ces IA avec notre cœur et nos sentiments.
Merci Manon, qu'on peut applaudir ici à Poitiers. Ouais. On va savoir maintenant. On sait maintenant. On sait ce qui va nous arriver si on retourne sur des applications de rencontres. C'est pas mon cas. Pascal Breton, l'arrivée de l'IA dans la fiction, ça vous inspire quoi quand on voit ce qu'on a réussi à créer une fausse comédienne? Est-ce que ça a de quoi nous inquiéter ou pas?
Oui, sur le faux comédien, c'est à la fois inquiétant mais pas trop, parce que quand même jamais on ne remplacera l'humain, son sourire, son regard. Il n'y a pas trop de risques sur les comédiens, je ne pense pas. Il y aura beaucoup d'effets sur les effets spéciaux, sur le montage, sur le mixage. On va produire beaucoup plus vite, beaucoup moins cher. On pourra tourner dans des beaucoup plus petits studios. On pourra refaire tous les univers virtuels qu'on veut extrêmement facilement. Mais je pense que les humains vont rester à la fois dans la création, l'écriture, et dans les acteurs. Le dessin animé, là, ça sera beaucoup plus vaste et immédiat. Et c'est déjà le cas.
Et à ma grande surprise, ce n'est pas Lisa Perriot qui vient de s'installer à côté de vous, mais Christine Karnetschek, que nous recevons à nouveau. Bonjour Christine.
Bonjour. Écoutez,
Moi, je suis ravie de voir que vous savez enfin prononcer aussi mon nom. Vous savez, on parle de parité, comme quoi les pots de vin, ça reste une valeur sûre. Je suis ravie d'être avec vous.
Et on a hâte d'entendre votre chronique, la chronique de Lisa Perrieux. Ce sera juste après Parcells, Sorry, sur France Inter.
Tour à Poitiers, Manon Mariani, Quentin Lui, Cyril Lacarrière.
Et pour finir cette émission, nous recevons, oui, tous vos applaudissements, Christine Karnetschek, directrice des programmes chez Netflix France.
Et oui, ravie de voir que vous savez également prononcer mon nom. C'est possible de faire correctement son travail, je suis ravie. Donc je suis Christine Karnetschek, directrice de Avaris Bank, de Netflix et puis récemment de Warner Bros. Voilà, moi on me dit pas non, on me dit combien, puis j'aligne. Je vous rassure, je suis venue ici, c'est pas pour vous racheter, ça serait pas rentable.
Mais, merci Christine. Est-ce que vous connaissez Pascal Breton? Vous le connaissez, je crois.
Hein. Bah, bien sûr, évidemment. Ça va, mon Pascalou? Bah, oui. Ça va, vieille branche? Alors, c'est pas facile de le joindre, hein, dis donc. Hein. C'est un petit milieu, vous savez, ça fait des années que je veux qu'il bosse pour moi. C'est pas faute d'essayer de le corrompre, mais bon. D'ailleurs, j'ai un petit cadeau pour toi, tu vas voir, tu vas pas être déçu de ma venue. Vincent! Vincent, c'est mon nouvel assistant. Vincent! Vincent, tu vas voir. Enfin, le dernier parti, je sais pas, en arrêt maladie. Vincent! Vincent! Un burn-out, j'ai pas compris. Vincent! Bon, je sais pas s'il s'est perdu dans Poitiers, c'est possible. Ça va, mon Pascalou? Alors, écoute, faut que tu viennes vraiment bosser chez nous, hein, Pascal. Hein. Là, je suis sur une série française. C'est un carton, c'est sur un voleur qui se fait jamais choper. C'est quoi le nom déjà?
Vous parlez de Lupin, peut-être?
Non, Sarko. Oh. Sarko. Ça cartonne, Sarko. Alors là, je vais vous dire, la nouvelle saison scoop. Il y a Sarko, enfin, il retourne en prison, et puis il y a Darmanin qui arrive, qui s'est fait tatouer les plans pour s'évader dans le dos. Toujours joué par Omar Sy, bien sûr. Il sait tout faire, Omar Sy. Il est formidable. Ah oui. Franchement, si ça, ça vaut pas le coup de payer 55 balles par mois. Mais pour toi, c'est gratuit, mon Pascalou. Je vais te trouver des codes. Tu vas voir Vincent. Vincent. Mais qu'est-ce qui branle? C'est pas vrai, ça. Vincent. Ah, c'est parce qu'il s'appelle pas Vincent. C'est peut-être pour ça. C'est mon problème avec tous mes nouveaux assistants. Ils changent de nom à chaque fois. C'est emmerdant. C'est facile pour vous, Siri. Vous avez qu'un Mathieu. Alors forcément, vous pouvez pas vous tromper. Quoi qu'il est même pas là. Bravo pour l'autorité. Mais bon, mon Pascalou. Alors, écoute, il faut que t'arrêtes tes conneries. Maintenant, tu bosses pour moi. J'ai tellement d'idées. Tu vas voir, j'en ai une en sport. Je vais te la pitcher. Tu vas halluciner. C'est l'histoire d'une américaine qui débarque à Paris pour suivre son rêve. Emma, elle débarque à Paris, elle veut suivre son rêve dans la mode et elle parle pas un mot de français, c'est formidable, hein.
Alors, pardon Christine, mais je crois que ça existe déjà et il me semble que ça s'appelle Emily in Paris.
Qu'est-ce que c'est que cette merde?
Bah, c'est le plus gros succès de Netflix, c'est vu des millions de fois.
Mais non, mais Emily in Paris, bien sûr, je connais très bien, formidable, c'est moi qui ai signé, attendez, tu vois, si ça c'est pas la preuve qu'on doit bosser ensemble, mon Pascal, franchement. Puis après, tu vas faire quoi si jamais tu bosses pas avec moi, tu vas faire quoi? Tu vas produire des feuilletons pour des ménagères dépressives, des sous le soleil, non mais t'imagines la honte.
Alors justement, Christine, c'est Pascal qui a produit sous le soleil.
Mais non, mais c'est formidable, j'adore. Je suis tellement fan, mais t'as tellement de talent, Pascalou, oh là là, mais j'ai tous les DVD à la maison, tu sais, ils sont rayés tellement que je les ai matés, c'est pour te dire. Ah, oh, moi, sous le soleil, c'est mon dada, c'est formidable, on est raccord sur tout, mon Pascalou. Alors, c'est décidé, tu viens bosser pour moi, puis en plus, c'est une belle maison de production que t'as là. Ce serait dommage qu'il lui arrive quelque chose. Je plaisante, pas du tout, je rigole, absolument pas. Non, non, moi, menaçante, non. Tu te rappelles du film Seven à la fin du film? Oh, bah... Chérie, pourquoi ta tête est dans le colis Amazon? Oh. Pense à ta famille. Bon, oh. Alors, écoute, j'ai ça pour toi. Voilà, c'est ton contrat. Il y en a pour combien de temps encore avec votre podcast à la con, là? 5 minutes? Voilà, tu me signes ça en attendant, puis moi je vais te mettre sur la saison 12 de Stranger Things. Tu verras, les ados auront ton âge, tu peux pas refuser ça. C'est formidable. Merci beaucoup.
Mais merci, Christine Karnetchek.
Merci.
Et merci, Lisa Perriot. On vous retrouve évidemment la semaine prochaine dans Zoom Zoom Zen. Vous aussi Christine, sûrement, bientôt, quelque part, en spectacle en tout cas, Lisa, sur scène, dans votre spectacle, les mercredis à Paris, à la Nouvelle Scène, les 16 et 17 janvier à Nantes. Lisa Perriot Tour, c'est ça?
C'est ça, exactement. Voilà.
Merci à vous, merci à vous Pascal Breton d'être venu avec nous à Poitiers jusqu'ici pour parler de ce mastodonte qui est devenu Netflix. Je rappelle que vous êtes producteur et président fondateur de Fédération Studio.
Allez, merci à tous les amis, c'est le moment. Malheureusement, on va être obligé de se dire au revoir.
De vous quitter, bah oui.
Ah bah si. Ah bah il y en a une partie qui est partie tout à l'heure, vous êtes restés. Ah si, c'est vrai, c'est vrai. Manon, merci, Cyril, Mathieu Noël, qu'on embrasse.
Si.
Qu'il soit.
On va l'applaudir quand même.
Ah, on l'applaudit. On l'applaudit. Applaudissez, Cyril.
Non.
Oh.
Oh. Merci à ceux qui nous aident à préparer cette émission. Florence Gimala, Claire-Sophie Collet, Pierre Courade, qui est là, qu'on peut applaudir, qu'on adore, Pierre, évidemment. Gérald Arnaud aussi, nos stagiaires et alternantes, Pénélope de la Péchardière, Jade Bellag, à la réalisation c'était Alicia Vulot, à la technique Florian Dittre à Paris et à Poitiers c'était Sébastien Huel et Christophe Michou qui sont cachés juste derrière. Ouais, ouais, ouais. Un immense bravo aux équipes de Radio France, Benoît Gégou, Raja Boudni et à toute la partie technique à la fois de Radio France et celle du TAP, du Grand Poitiers, qui ont bossé main dans la main dans cette magnifique salle. Merci également à la ville de Poitiers, la bise à Sylvie et Manu du Haut Le Bistrot, et merci à vous.
Ah oui.
Merci à vous ici dans ce public. Mais ouais, c'est une très bonne idée ce rendez-vous. Merci, il fait du bien, il fait du bien. Ah ouais. Si ça vous dit... On va essayer de revenir tous les vendredis à Poitiers, mais c'est pas gagné. Voyons-nous un peu plus souvent, ça fait chaud au cœur. Vous pouvez vous applaudir. On se retrouve lundi dans Zoom Zoom Zen pour une nouvelle semaine. À bientôt.
Zoom Zoom Zen.